Bonjour.
Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tout roule pour vous. Moi ça va. Incroyable. Bien le bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Tchoum, tchoum. Je suis malade, j'ai passé la journée dans mon lit. Oh! C'est nul ça. Ça c'est moche. Oh, tu me diras, j'ai pas fait grand-chose d'autre. Hein. Je pas. Voilà. Demain, je reçois ton livre normalement. Bah ouais, c'est demain la sortie du livre. Salut Andrea. J'attends mon bateau avec vous. Tu prends un bateau? À 16h? Pour rentrer du taf? C'est quoi le délire? Je suis en descente de nuit, je bosse aux urgences et je suis heureux de te suivre au réveil. profite bien, t'as le droit. Elle est belle la France qui travaille. Ah non, 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 c'est très très moi, j'ai beaucoup d'admiration. Hein. Les gens qui bossent et tout, qui font tourner la boutique, bravo. Hein. Vous êtes l'avenir. Hein. Bon, ceux qui branlent rien aussi, vous êtes l'avenir en même temps, on est tous dans le même bateau. Hein. Je suis journaliste et j'en peux déjà plus de tout ce qui se passe avec Barnier et tout. Ah, ça commence! Ça commence les dingues. Les couacs gouvernementaux, il y en a déjà eu deux en une journée. Non, c'est pas mal. Ça existe encore le Covid? Non, c'est dépassé le Covid. C'est fini. C'était une mode. Tout le monde a dit que c'était de la merde. Il y a eu quoi avec le nouveau gouvernement? Alors, il y a eu première passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Tiens, ça nous manquait. Le débat justice-police. Qui c'est qui est responsable de la délinquance? Bruno Retailleau, dans une interview, a dit que il faut que les condamnations suivent. C'est un grand classique de la police. Nous, on arrête les méchants, mais après, si la justice les relâche, c'est pas de notre faute. C'est à cause de la justice qui est trop molle. Très classique, hein, y a rien de nouveau. Et le ministre de la Justice, Didier Migaud, a poliment rappelé à son collègue que la justice dans ce pays était indépendante, que les magistrats ne répondaient pas aux sifflets, à la différence des policiers, et que donc il fallait leur lâcher la grappe et les laisser faire leur travail. Commence bien, hein. Tu sens que premier uppercut de la part du ministre de l'Intérieur qui a voulu tester un peu pour voir c'est quoi un peu le c'est quoi les bails. Il est comment là le Didier Migaud? Est-ce qu'on peut le Est-ce qu'il y a moyen? Bon, apparemment il n'y a pas moyen. Didier Migaud, il est sur un non 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 non, a pas commencé. Le groupe vit bien. Ah, le groupe vit bien. Ouais, non, ça a bien commencé. Le ministre du retour à l'ordre, qui s'est fait rappeler à l'ordre par le ministre de la Justice. Ça s'appelle être remis à sa place. Oui, et en même temps, c'est un grand classique. Hein. Encore une fois, ce débat-là, il est vu revu. Il y avait déjà eu la même chose entre Darmanin et Dupond-Moretti. La même chose. C'est classique. C'est l'engueulade classique entre ces deux ministères. Le ministre de la police qui dit s'il y a des délinquants, c'est à cause de la justice qui les remet en liberté. Et le ministre de la justice qui répond, allez vous faire foutre, la justice est indépendante. Bruno Retailleau a eu l'air, par contre, de dire qu'il était chaud pour déposer une loi sur la sécurité en remettant les peines planchers. Pour ceux qui ont raté l'épisode des peines planchers, c'était une invention de Nicolas Sarkozy qui consistait à forcer les juges à condamner un minimum de peine de prison ou d'amende les récidivistes. C'est-à-dire que quand une personne récidive et qu'elle se représente devant la justice, elle ne peut pas ne rien avoir. C'est un truc qui méconnaît complètement les principes d'individualisation des peines de la justice et tout, mais. Voilà. Je me souviens plus quel avait été le sort de cette proposition. Est-ce que ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, ce qui m'étonnerait pas? Ou est-ce que ça avait été mis en place? Je crois que ça avait été mis en place, mais que les peines planchers étaient indicatives. Autant dire que ça ne sert à rien. Les magistrats, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, avant, vous faisiez ce que vous voulez. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez une indication que vous pouvez faire ça. Mais c'est vous qui décidez, hein. Oui, d'accord, super. D'accord, donc c'est une proposition de merde. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un autre truc qu'a proposé aussi Bruno Retailleau, c'est d'avoir recours plus facilement à des courtes peines dès les premières infractions. Grosso merdo, c'est un modèle qui consiste à dire qu'aujourd'hui en France, quand c'est votre première infraction, vous avez tendance à vous en sortir avec une amende et on vous met pas tout de suite du ballon, quoi. Vous allez pas aller en taule pour votre premier vol. Par contre, si vous êtes récidiviste, bon, là, vous risquez de prendre du ferme et a priori, vous pouvez vous le prendre. Mais sur les premières peines, ça ne veut pas dire qu'on passe l'éponge, c'est juste dire qu'on n'envoie pas les gens en taule si c'est leur premier délit, quoi. L'idée, c'est d'opposer à ça un autre modèle qui est. Alors, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, si je dis pas de bêtises, c'est le modèle des Pays-Bas. Je crois que c'est les Pays-Bas qui font ça. Ou eux, à l'inverse, ils ont un principe de. Dès les premières infractions, on met des peines de prison effectives, mais courtes. Genre, tu prends 3 semaines, tu prends 2 semaines, tu prends 1 semaine, tu prends. Enfin voilà. C'est court, et le but du jeu, c'est d'impressionner le délinquant pour qu'il se dise ah ouais, ah oui, d'accord. Oui, ben non, alors. Pas envie. Pas envie d'y retourner pour plus longtemps. C'est ça le but du jeu. Faire peur aux délinquants pour limiter la récidive. Parce que l'argumentaire derrière ça, que je me souviens très bien, Nicolas Sarkozy l'avait largement défendu, c'était de dire. Le fait que les délinquants s'en sortent avec de simples peines d'amende lors de leur premier délit, ça envoie le message que la justice est faible et que donc ils risquent pas grand-chose et que donc ils peuvent recommencer facilement. Donc voilà, les prisons sont déjà bondées. Oui, il y a une surpopulation carcérale, ce à quoi Bruno Retailleau, je crois, il a dit qu'il voulait construire davantage de places de prison. Mais c'est ni le premier ni le dernier à l'avoir promis, ça. Hein. Construire des places de prison, ça prend du temps. C'est pas le genre de truc que tu peux annoncer un matin à la télé en disant ça va tout changer. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. À l'inverse, la gauche, avec Christiane Taubira à l'époque, à la justice, qui avait fait une réforme pénale d'ailleurs, elle avait au contraire fait la marche arrière en disant non, 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 on va essayer de limiter au maximum les passages en prison, parce que c'est le pire pour la délinquance et pour la récidive. Il faut des aménagements de peine, il faut des bracelets électroniques plus fréquents, il faut des maintiens des procédures d'éloignement, il faut des maintiens au domicile. Avec obligation de pointer au commissariat, ce genre de truc-là. Et c'était ça la réforme pénale de Taubira, qui avait été torpillée à l'époque par la droite, hein, qui dénonçait une lâcheté pénale et un service rendu aux délinquants. Ça reprend quel jeudi, Baxit? Ça reprend le 3 octobre, Baxit, en studio. Donc voilà ce premier couac entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Il y a eu un autre couac un peu plus sérieux, celui-là. C'est le ministre de l'Économie, Antoine Armand. Antoine Armand, ministre de l'Économie, qui a déclaré ce matin au micro de France Inter, il était l'invité de la matinale, il a déclaré que pour la construction du budget, donc le budget tant attendu pour l'année prochaine, pour la construction du budget 2025, il allait se concerter avec tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale, à l'exception du Rassemblement national, qui, selon lui, n'appartient pas à l'arc républicain. Antoine Armand a donc mis une ligne rouge en disant non, moi je ne discute pas avec le RN. C'est pas des républicains. Le tout dans un argumentaire où il disait, faut pas oublier le front républicain voulu par les Français, machin. Ce qui fait très bien sur France Inter, hein, tu me diras. Mais, mais ça l'a pas fait du côté du RN, qui a entendu ça et qui a gueulé, évidemment. Et le Premier ministre en personne, Michel Barnier, a rectifié le tir de son ministre de l'économie en téléphonant à Marine Le Pen pour la rassurer. En lui disant, rassurez-vous, Madame Le Pen, vous serez bien reçue à Bercy dans le cadre de la préparation du budget. À mon avis, il a dû passer une soufflante à son ministre de l'économie, Antoine Armand, qui a rétropédalé dans un communiqué de presse en disant que, bien sûr, il allait recevoir tous les groupes. Bien sûr, évidemment, il s'est mal fait comprendre. Michel Barnier, à la différence d'Antoine Armand, a bien compris de qui il dépendait pour gouverner. C'est bien Marine Le Pen qui a le doigt sur le bouton nucléaire et qui a la possibilité de mettre fin à ce gouvernement. C'est le ministre du budget qui prépare le budget. C'est le ministre des comptes publics, autrement appelé ministre des finances, qui est généralement sous la coupe du ministre de l'économie. Donc effectivement, tu as raison, le ministre du budget, c'est pas Antoine Armand. Antoine Armand, c'est le ministre de l'économie, le ministre du budget qui dépend de lui. Il s'appelle... je sais plus. Tu penses que le gouvernement va se prendre une censure où il peut tenir? Je pense que le gouvernement va se prendre une censure en mai prochain. Parce que Marine Le Pen voudra qu'il y ait une dissolution. Elle voudra provoquer la dissolution. Mais pas avant. Le chantage commence. C'est pas du chantage. C'est pas du chantage de la part de Marine Le Pen, c'est du rapport de force parlementaire. C'est bête et méchant, hein. Donc le gouvernement a intérêt à écouter Marine Le Pen, puisque c'est Marine Le Pen qui peut décider de mettre fin au gouvernement. Je caricature à peine, hein. Il suffit qu'elle décide de voter une motion de censure déposée par la gauche et c'est terminé. Est-ce que c'est vraiment souhaitable une nouvelle dissolution? Ça dépend pour qui. Et ça dépend ce que tu estimes être les résultats. Et ça dépend du mode de scrutin. Si le Premier ministre était Bernard Cazeneuve, l'exacte même chose serait faite par le NFP. Absolument. Absolument. Si le ministre de l'économie de Bernard Cazeneuve avait déclaré je m'entretiendrai avec tous les groupes, à l'exception de la France insoumise qui n'appartient pas à l'arc républicain, Bernard Cazeneuve aurait décroché son téléphone pour appeler Jean-Luc Mélenchon pour le rassurer. Genre, rassurez-vous, il n'a pas voulu dire ça. Vous serez bien reçu. Je suis pas sûr, tiens, qu'il fasse ça, Bernard Cazeneuve. Je suis pas sûr. On a donc Marine Le Pen qui tient le gouvernement, et celui-ci obligé de faire ce que veut Retailleau pour que le gouvernement n'implose pas. Exactement. Classique, rien de nouveau, c'est du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre du tout. Pour le coup, là, c'est extrêmement concret, hein. C'est le gouvernement de la nation responsable devant une assemblée nationale. C'est du rapport de force parlementaire. C'est quand qu'on a le vrai compte de groupe de députés? Bah, on l'a déjà. Tu vas sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà, regarde, hop. Tu as la liste de tous les députés par groupe. Rassemblement national, Ensemble pour la République, la France insoumise, Nouveau Front populaire, Socialiste et apparenté, Droite républicaine, Écologiste et sociale, Les démocrates, Horizon, Liot, GDR, UDR, non inscrit. UDR, c'est, les groupes, c'est le groupe d'Éric Ciotti. Voilà. Ils sont tous là. Pourquoi on n'arrête pas de voir partout que c'est la faute de la gauche si on a un gouvernement de droite, alors que c'est le président qui a choisi son premier ministre? Les gens qui disent ça accusent la gauche d'avoir refusé de faire le moindre compromis, de n'accepter que la solution Lucie Castet et aucune autre. L'autre ayant été posée sur la table par Emmanuel Macron, c'était l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, issu de la gauche, aurait pu mener un gouvernement qui aurait allié le Nouveau Front populaire avec les macronistes, dans un rapport de force difficile, mais dans un gouvernement quand même, Bernard Cazeneuve aurait donc été sous la coupe du NFP et donc un peu obligé de faire ce que demande le NFP. C'est ça que reprochent les commentateurs qui disent que c'est à cause de la gauche qu'on a Michel Barnier. En réalité, tu as raison, c'est pas la seule donnée du problème, c'est aussi Emmanuel Macron qui a refusé de nommer Lucie Castet parce qu'il ne voulait pas faire alliance avec le programme du NFP. Emmanuel Macron. Lui-même ne voulait pas. Au début, il a prétexté que c'était à cause de la présence des insoumis dans le gouvernement. Puis quand Jean-Luc Mélenchon a dit, bon, bah ok, on met pas d'insoumis dans le gouvernement, vous allez faire quoi? Et bien là, ils ont expliqué que c'était à cause du programme, qui proposait d'abroger la réforme des retraites, qui proposait des hausses de dépenses, etc. Donc, Emmanuel Macron n'est pas un arbitre neutre au milieu de tout ça. Le président de la République n'a jamais été un arbitre neutre. Il fait de la politique lui aussi, et il a dit, bah, si j'ai le choix, je préfère Barnier sous la coupe du RN, plutôt que Castex sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. François Hollande a dit que Macron n'avait jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. Oui, je sais, c'est pas le seul François Hollande. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux aussi. Hein. Peut-être que François Hollande et ses camarades se disent ça pour se rassurer, pour ne pas paraître pour des peintres. La bise aux peintres du chat. Oui, on embrasse les peintres. Cazeneuve ne fait pas partie du NFP. Non, Cazeneuve ne fait pas partie du NFP. Mais de toute manière, il n'était pas question d'avoir un gouvernement NFP, il était question d'avoir un gouvernement de coalition entre NFP et les macronistes. Dans cette hypothèse-là, refusée par le NFP, mais dans cette hypothèse-là, Bernard Cazeneuve aurait pu incarner l'espèce de point central qui peut en mesure de rassembler les deux, quoi. Cazeneuve a quitté le PS au moment de la NUPES. Oui, absolument. Sophia Chikirou a été mise en examen pour escroquerie aggravée. Oui, absolument. Sophia Chikirou, la députée insoumise de Paris, proche de Jean-Luc Mélenchon, a été mise en examen formellement aujourd'hui par la justice dans l'affaire des comptes de campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Il lui est reproché par les enquêteurs d'avoir surfacturé, voire même fait facturer des prestations fictives de manière à gagner de l'argent sur le remboursement par l'État des frais de campagne. Elle avait déjà été entendue par la justice en 2022. Mais là, elle est formellement mise en examen. Et elle est présumée innocente. Le Big Malion de la gauche. Alors pas tout à fait, parce que Big Malion, c'était de la double facturation. C'était pour le coup de la sous-facturation. Enfin, c'était pour maquiller des dépassements de frais de campagne. Peux-tu nous expliquer comment sont financés les partis politiques, s'il te plaît? C'est très simple. Les partis politiques ont deux types de revenus. Ils ont des revenus de la part de leurs adhérents et de leurs membres, qui s'appellent des cotisations. Et ils ont des revenus de la part de l'État en fonction du nombre d'élus qu'ils ont, notamment à l'Assemblée nationale. Il y a un calcul qui est fait. En fonction du nombre de députés que tu as, tu perçois du financement politique de la part de l'État. L'État finance la démocratie, en gros. Et voilà, c'est tout. Non, troisième source de revenus. Troisième source de revenus, ce sont les dons. Ce sont les dons, exactement comme l'excellente émission Baxit que vous pouvez financer. Les partis politiques perçoivent des dons de la part de particuliers. C'est très encadré en France, à la différence des États-Unis par exemple, où c'est n'importe quoi. En France, c'est très encadré, c'est limité en quantité de pognon qu'une personne peut donner à un parti. Et c'est limité en fonction de la personne aussi. Par exemple, les entreprises n'ont pas le droit de faire des dons aux partis politiques, c'est seulement les individus. Et les goodies. Oui, alors les partis politiques vendent des goodies, mais à part pour Balladur, personne gagne de l'argent en vendant des t-shirts. Hein. Ça se passe comment aux USA? Alors, je suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais aux USA, ils ont un système qui s'appelle les PAC, qui sont des espèces de fondations, qui sont des super financeurs politiques qui ont vocation à récolter du pognon de la part de donateurs partout aux États-Unis. Alors, ça peut être des petits dons, c'était notamment Barack Obama en 2008 qui avait fait une campagne présidentielle qu'il avait en grande partie financée avec des petits dons de la part des petites gens. Et c'était très smart de faire ça parce que ça a beaucoup impliqué des gens dans la campagne démocrate. Et c'était un peu une nouveauté quand même, parce qu'habituellement les États-Unis, ce sont des entreprises qui font des dons faramineux de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros à des organismes de financement politique, qui s'appellent les PAC. Et ça devient un peu débile, parce que en même temps aux États-Unis, il n'y a pas de plafond, à la différence de la France, aux États-Unis, il n'y a pas de plafond de dépenses pour une campagne présidentielle. Donc tu peux dépenser autant que tu veux, donc tu peux récolter autant d'argent que tu veux, donc les entreprises sont incitées à donner un maximum de pognon. Il y a beaucoup d'entreprises qui donnent aux deux partis, comme ça, aux républicains, aux démocrates, filent un peu de blé aux deux. Comme ça, quel que soit celui qui gagne les élections, bah, ils sont un peu redevables quand même. Ça pue le clientélisme. C'est dénoncé par beaucoup de gens aux États-Unis, hein, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui existe actuellement, mais c'est très très dénoncé. Je crois qu'il y a eu un arrêt de la Cour suprême américaine. Récemment, peut-être au début des années 2000 ou dans les années 90, il y a eu un arrêt de la Cour suprême américaine qui a libéralisé complètement le système de financement politique aux États-Unis. Genre vraiment, ils ont levé tous les verrous qui existaient. Et depuis, c'est open bar. Depuis, c'est open bar. Ils annoncent 1 milliard pour la prochaine présidentielle. 1 milliard, tu veux dire par candidat ou pour. Un milliard par candidat ou je sais pas. En France, pour vous donner un ordre d'idée, hein, en France, une campagne présidentielle, c'est limité de mémoire à 24 millions d'euros. Vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 24 millions. Si vous êtes un candidat du deuxième tour. Oui, je précise. Au premier tour, c'est 21 millions, je crois. Un truc comme ça. Sauf affaire Big Malion. Alors justement, l'affaire Big Malion, c'est que Nicolas Sarkozy a dépassé très largement ses 24 millions d'euros. Et pour que ça passe, il a fait un système de double facturation pour maquiller les comptes, de manière à faire rentrer ça dans 21 millions. Dans 24 millions, pardon. C'est beaucoup quand même. Non, faut pas voir ça. Enfin, une campagne présidentielle, c'est énormément de travail pour énormément de gens. Énormément d'organisations, c'est de l'événementiel, ce sont des meetings. Un meeting, ça coûte cher. Je suis bien placé pour le savoir. La sono, les caméras, l'estrade, l'organisation d'une manière générale, ça demande énormément de moyens. Ça coûte vite cher et une campagne présidentielle, ça s'étale sur entre 6 mois et 1 an. Plus un local de campagne dans lequel il y a des permanents qui sont rémunérés, etc. C'est pas, c'est beaucoup d'argent. Je dis pas qu'il n'y a pas assez de pognon, hein. Je dis juste qu'il faut ramener ça à la réalité de ce que c'est. De mémoire, la campagne de Mélenchon en 2017 a été la moins chère, autour de 10 millions. Alors c'est possible, je connais pas les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Après, c'est normal que les candidats ne dépensent pas plus de 10 millions. La raison est toute simple, c'est que le remboursement des frais de campagne par l'État se limite à 50% du plafond. Comme le plafond est à 21 millions, t'as intérêt à pas dépenser plus de 10,5 millions pour te faire rembourser intégralement. Sinon, tout ce que tu dépenses au-dessus, ce sera perdu. Et ça, c'est pareil pour les élections locales. Les candidats essayent d'y aller mollo quand même. Parce que sinon, ils ne seront pas remboursés. n'y a pas une affaire sur les comptes de campagne de la France Insoumise en 2017, si justement on était en train d'en parler, Sophia Chikirou a été mise en examen pour escroquerie, recel d'abus de biens sociaux, et abus de biens sociaux d'ailleurs. Sophia Chikirou qui avait d'ores et déjà été épinglée par la justice, qui avait noté dès 2018 qu'il y avait un problème parce qu'elle apparaissait à la fois comme étant la directrice de communication de la campagne et comme la patronne de l'entreprise qui facturait des prestations de communication à la campagne. Ça, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Elle est à la fois donneuse d'ordre et exécutante. C'est elle qui signe les chèques à elle-même. Voilà. C'est qui Sophia Chikirou? Sophia Chikirou est une députée de Paris, élue en 2022. Elle est réputée très proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle fait partie de son cercle rapproché, voire intime. Et Sophia Chikirou s'était fait connaître au préalable, après 2017, pour avoir créé la web TV Le Média, qui existe toujours d'ailleurs, qui a vécu moult péripéties, mais c'est elle qui a initié la création d'une web TV de gauche sur Internet. Et fun fact, on était voisins de bureau, Sophia Chikirou et moi, à l'époque. À l'époque, ma chaîne s'appelait Acropolis. On avait des locaux, parce que je n'étais pas tout seul, hein, on avait des locaux pour l'entreprise de production. Et on était dans les mêmes locaux que Sophia. Et donc j'ai passé un certain nombre de soirées à boire des ginto avec Sophia pour discuter de son projet de web TV. C'est des bons souvenirs. On a bien rigolé. Elle n'a pas commencé chez LR. Non, elle a commencé à l'UMP. Il y a longtemps. Je sais pas quelle année. Elle a été à l'UMP. Récemment, il y a eu une passe d'armes entre Sophia Chikirou et François Hollande. Sophia Chikirou, dans un tweet, a comparé François Hollande et les socialistes à des punaises de lit. En disant c'est une espèce invasive. T'as beau te gratter et les dégager à coups de pompe, ils reviennent par la fenêtre. Elle avait tweeté un truc comme ça. Donc elle avait traité François Hollande de punaise de lit. Et François Hollande n'a pas répondu dans les médias à cette pique. Par contre, il a répondu en réunion de groupe socialiste à l'Assemblée, où on lui a demandé de réagir, et il a déclaré ceci, je cite, « Je connais bien Sophia Chikirou, vous savez, j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste, et je l'ai exclue du Parti Socialiste quand elle a appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. » La pique est rude. Le revers est rude. Voilà, fin du drama entre les deux. Un partout, la balle au centre. Ça joue. L'arbitre a pas sifflé, ça joue. Pourquoi on parle de ça? Oui, parce qu'elle a été mise en examen aujourd'hui formellement. Donc la mise en examen, je vous le rappelle, que c'est la continuation de la procédure d'enquête. Elle va avoir des moyens de se défendre, elle va pouvoir prendre un avocat, elle va avoir accès au dossier, etc. Ça va suivre son cours et elle sera un jour, peut-être, renvoyée pour un procès devant un juge. Pour les délits qui lui sont reprochés. Et je vous rappelle qu'une mise en examen n'est pas une preuve de culpabilité. Sophia Chikirou est innocente jusqu'à preuve du contraire par un jugement, pas par une mise en examen. Donc je vous disais qu'il y a eu ce deuxième couac aujourd'hui. Donc Michel Barnier a appelé personnellement Marine Le Pen pour la rassurer suite aux propos du ministre de l'économie qui a exclu Marine Le Pen de l'arc républicain. Michel Barnier qui lui a téléphoné pour lui dire non, t'inquiète, c'est bon, arrête de gueuler, je te dis, excuse-moi, il est jeune, il sait pas, il vient d'être nommé, il était en matinale de France Inter ce matin, il s'est emporté, il a dit des conneries, tu seras bien auditionné, comme tous les autres groupes politiques de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la préparation du budget. « Et c'est quoi le premier couac? Le premier couac, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a dit que c'était. Il l'a pas dit comme ça, mais en gros, il a dit que c'était à cause de la justice trop laxiste, s'il y avait de la délinquance, et qu'il fallait un tour de vis du côté de la justice, ce à quoi son homologue et collègue à la tête du ministère de la Justice, Didier Migaud, a répondu: la justice est indépendante dans ce pays. Ce que Bruno Retailleau n'ignore pas. Classic shit. Classique engueulade entre ces deux ministères, rien de nouveau. Comment est-ce qu'on connaît l'existence de ce genre d'appel? Alors, des journalistes bien informés ont eu l'information, probablement par Marine Le Pen. Qui est-ce qui a intérêt à faire savoir publiquement que le Premier ministre a téléphoné à Marine Le Pen pour la rassurer? Bah Marine Le Pen. Elle est bien contente, Marine Le Pen, que ça se sache, que le Premier ministre lui téléphone. La queue entre les jambes et la mine basse. Évidemment. Oui, il y a aussi, tu as raison, Bruno Retailleau a annoncé. Donc Bruno Retailleau, c'est le ministre de l'Intérieur. Hein. Va falloir s'y faire, les enfants. Bruno Retailleau a annoncé qu'il allait déposer plainte contre le député Raphaël Arnaud pour diffamation à l'égard de la police et de la gendarmerie. Raphaël Arnaud est un député LFI qui est connu pour son engagement antifasciste, puisqu'il a été à la tête notamment, alors il est peut-être toujours hein, d'ailleurs, d'une organisation qui s'appelle la Jeune Garde antifasciste. Il a été élu député en juin dernier pour la première fois, Raphaël Arnaud, et il aurait tweeté, il y a quelques jours, il aurait mis en cause les policiers envoyés de la métropole vers la Nouvelle-Calédonie. Il a accusé ces policiers d'être des assassins de Kanaks, d'avoir assassiné des Kanaks. Et Bruno Retailleau a pris ce tweet en exergue et a dit: je vais déposer plainte. C'est mon rôle de premier flic de France de protéger la police et sa réputation. Je vais donc déposer plainte. Et on a appris, enfin j'ai appris plutôt, dans la suite, que c'est pas Bruno Retailleau qui a trouvé tout seul ce tweet. Bruno Retailleau, visiblement, il a simplement repris un truc qui était dit par le RN. En fait, c'est le porte-parole du RN, dont j'ai oublié le nom, qui a mis en exergue ce tweet, le premier, en disant: regardez ce que tweet Raphaël Arnaud, c'est un scandale, nos forces de l'ordre, blablabla. Et Bruno Retailleau de dégainer: ah ben oui, tout à fait, bien sûr, le RN a raison, il faut porter plainte. Mathieu Vallet, merci beaucoup. Il s'appelle Mathieu Vallet, le porte-parole du RN, qui était policier lui-même, je crois. Je dis pas de conneries. Je sais plus. Non, c'était pas lui, c'était un autre, je sais plus. Raphaël Arnaud a fait un communiqué de presse pour s'expliquer d'ailleurs. Alors Raphaël Arnaud sera peut-être présenté à un juge pour s'expliquer sur ce tweet et pour éviter d'être condamné pour diffamation. Oui, c'est ça, c'est un ancien policier syndiqué. Mathieu Vallet. Donc c'est bien lui, le porte-parole du RN, qui est un ancien policier syndiqué. Ok. C'est bien ce que je pensais, je me suis pas trompé. Pas d'immunité parlementaire. J'ai un doute sur l'immunité parlementaire dans ce genre d'affaires. Pour moi, l'immunité parlementaire, elle ne couvre que les délits qui sont commis par un député dans l'exercice de son mandat. Et en même temps, tweeter, communiquer. Uniquement dans l'Assemblée? Non, pas uniquement dans l'Assemblée. Non, 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 non. Peut-être que ça s'applique pas à la diffamation. Je sais que ça s'applique pas en cas de flagrance. Brune Pivet en a parlé ce matin, ça couvre uniquement dans l'Assemblée. Ça m'étonne. Ça m'étonne de la part de Yael Brune Pivet de dire ça. On va demander à Joujol. immunité parlementaire en France. Wikipédia. Boum. Protéger le cadre de leur fonction, les mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance, celle du Parlement, l'immunité parlementaire, c'est effectivement un certain nombre de protections, l'Assemblée. L'immunité parlementaire ne l'offre pas une immunité totale. Non, ça c'est vrai, contrairement à une opinion courante. L'immunité parlementaire est prévue à l'article 26 de la Constitution de la Ve République et offre une double immunité de juridiction, l'irresponsabilité et l'inviolabilité. L'irresponsabilité protège le parlementaire de toute poursuite pour des actions accomplies dans l'exercice de son mandat. Ça, c'est ce que j'avais en tête. Et c'est non détachable de ses fonctions. L'inviolabilité vise les activités extra-parlementaires. Un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure coercitive au sens strict à son encontre nécessite la main levée de son immunité par les pairs. Oui, donc genre un placement en garde à vue ou ce genre de truc. Bon, là, il n'y a jamais de placement en garde à vue dans le cadre de la diffamation, je vous rassure. L'immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est personnelle, ne concerne donc que le parlementaire lui-même. Elle s'applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuels. Ok. Elle ne s'étend ni au domicile, ni au lieu de travail, et permet ainsi la saisie de ses biens ou une perquisition domiciliaire. Ça, oui. La levée de l'immunité parlementaire est possible, mais elle est partielle, puisqu'elle ne concerne que l'inviolabilité et subsidiaire, en ce qu'elle n'empêche pas le parlementaire de conserver son siège au Parlement, bien qu'elle puisse l'empêcher d'y siéger physiquement. L'immunité parlementaire est préalable à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen d'ordre public. La levée de l'immunité parlementaire est plus fréquente depuis les années 90, en dépit du fait que les poursuites étant possibles depuis 1995. Une poursuite peut parfois être menée jusqu'à la condamnation éventuelle du parlementaire sans qu'il ait à lever son immunité, ce qui permet à la justice de s'exercer. Ok, d'accord. A contrario, la levée de l'immunité ne présume pas de la culpabilité du parlementaire. Ah bah non. Qui en fait l'objet et ne concerne strictement que les faits et l'incrimination pour lesquels elle a été précisément demandée. Très bien. Ça répond pas à ma question. Ça répond pas à ma question. Protège le parlementaire de toute poursuite pour des actions accomplies dans l'exercice de son mandat. L'inviolabilité, ça j'ai compris ça. Mais pour moi, le fait de tweeter, ça appartient à des actions accomplies dans l'exercice de son mandat. À moins qu'on ait une interprétation stricte de ça, et qu'on considère que n'est exercé dans l'exercice d'un mandat que le dépôt d'amendement, le dépôt de proposition de loi, la signature de motion, ce qui me paraît très bizarre quand même. Il y a sans doute une jurisprudence. Il y a sûrement plein de jurisprudence. Eh bien écoutez, on verra si Raphaël Arnault invoque son immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, c'est vraiment une escroquerie. Pour les élus siégeants, il devrait y avoir une présomption de culpabilité compte tenu des scandales quotidiens. Alors, ce que tu dis est intéressant, ce que tu dis est sans doute soutenu par une certaine colère que tu as contre le personnel politique dans son ensemble, ce que je peux comprendre. Néanmoins, il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que l'immunité parlementaire, elle ne sert pas particulièrement à protéger la personne du député, hein, ça on s'en branle, mais surtout sa fonction. Il est très important que les hommes et les femmes qui font la loi soient indépendants. Très important. Qu'ils soient indépendants et autonomes. C'est donc nécessaire de les protéger d'un usage qui pourrait être fait de la justice visant à leur faire pression. Sinon, ce serait trop simple. Des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, des gens qui ont beaucoup de responsabilités, pourraient très facilement coller des procès au cul de tous les parlementaires sur lesquels ils ont envie de faire pression. En leur disant, soit tu votes mon amendement, soit je. Si tu votes mon amendement, je lève la plainte. Tu vois? C'est très très important l'immunité parlementaire. Précisément pour cette raison. Mais il est important que l'immunité parlementaire puisse être levée. D'où la procédure de levée de l'immunité qui peut être décidée, alors de mémoire c'est par le bureau de l'Assemblée, qui peut lever l'immunité d'un parlementaire à la demande de la justice, où la justice doit motiver sa demande en disant à l'Assemblée, nous enquêteurs de la justice, de la police judiciaire, je sais pas. Demandons la levée de l'immunité de tel monsieur parce que nous avons des soupçons à son égard vis-à-vis de telle affaire. Nous estimons qu'il est nécessaire pour la bonne marche de la justice de l'entendre, de lui permettre de se défendre également, etc., de faire avancer l'enquête. Nous demandons donc la levée de son immunité. Donc voilà, donc c'est très important que cette procédure existe. Y a-t-il un endroit préférable pour toi concernant la commande de ton livre? Absolument pas, je crois pas. Tu peux le commander où tu veux. Ça revient au même. Pourquoi ça parle d'immunité? Je viens d'arriver. On parle d'immunité parce que le ministre de l'Intérieur a annoncé engager des poursuites judiciaires contre un député suite à un tweet. D'autre part, je crois me souvenir, si je dis pas de conneries, que l'immunité, elle est temporaire. C'est-à-dire qu'elle est limitée dans le temps à l'exercice du mandat. Une fois que tu perds une élection ou que tu démissionnes de ton mandat de député, tu perds ton immunité. L'inéligibilité devrait être plus présente comme peine surtout. Alors, c'est à peu près la même chose que je vais te répondre en réalité. L'inéligibilité, c'est une peine effectivement qu'un magistrat peut prononcer contre un élu ou un ancien élu, lui rendant impossible de présenter sa candidature à une élection pendant une durée de 10 ans, 20 ans, je m'en fous, peu importe. L'inéligibilité, c'est un peu pareil que l'immunité parlementaire, il faut faire un peu attention avec ça. Parce que ça peut devenir un peu trop facile de mettre à l'écart un opposant politique. Il suffit de lui coller une peine d'inéligibilité d'une manière ou d'une autre, et hop, t'es débarrassé, t'as plus ton opposant. C'est un truc que fait énormément Vladimir Poutine, par exemple. En Russie, les opposants à Vladimir Poutine se prennent des procès dans la tronche, qui visent déjà à les affaiblir, à ruiner leur réputation, à les affaiblir financièrement, parce que ça coûte très cher, mais aussi ils leur collent des inéligibilités. Puis tant qu'à faire des interdictions de diriger une entreprise. Comme ça, t'es sûr de bien empêcher ton opposant de s'opposer. Donc attention, là aussi, l'inéligibilité, vous savez, elle est peu commune en France. Elle est peu prononcée. Pourquoi? Bah parce que contrairement à ce qu'on pense, les élus sont pas tous des délinquants, en fait. L'écrasante majorité des élus de ce pays, ils commettent pas des délits, en fait. Ils sont pas devant la justice. Les délits notamment de malversations financières, d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, etc. En fait, c'est assez rare. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de peine, en fait. Il n'y a pas beaucoup de. On en entend parler à chaque fois, parce que c'est quand même des gens célèbres et tout. Il y a des ministres, des anciens ministres, des députés, etc. On a l'impression qu'il y en a des caisses et tout. En vrai, pas tant que ça, hein. Donc voilà, donc pareil pour l'inéligibilité, peut-être qu'il faudrait renforcer la loi, peut-être qu'il faudrait voter. Attention, contrairement à ce que je suis en train de raconter, moi je suis favorable à toute évolution législative qui va dans le sens d'une meilleure transparence, d'une meilleure probité des élus et des décideurs, etc. Je suis tout à fait favorable. Je dis juste, attention, il y a des trucs qui pourraient paraître pour des bonnes solutions un peu faciles, qui ont des aspects négatifs très potentiellement très dangereux pour la démocratie. La France est le pays d'Europe avec le plus de politiques corrompues en ayant un casier judiciaire. J'avais entendu ça comme stat. Alors, je n'ai jamais entendu cette stat, c'est possible. Mais si. En physique statistique, en mathématiques statistiques, on t'apprendrait à dire que, attention, si la France a le plus grand nombre de politiques corrompues en ayant un casier judiciaire, c'est peut-être simplement que la France est le pays qui les condamne le plus. Sous-entendu, les autres pays n'ont pas intérêt à fanfaronner. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, il y a le même nombre de corrompus en France que dans les autres pays, c'est juste que chez nous, ils sont condamnés par la justice. Ailleurs, hop là. Ou alors qu'il y a plus d'élus. Tu as parfaitement raison. Ou alors c'est aussi simplement le fait qu'en France, il y a beaucoup plus d'élus. Donc attention avec ce genre de stats, toujours pareil, hein. Qu'est-ce qu'on met dans les stats? Comment on compare les pays? Sur la base de quoi? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que les mêmes délits existent ailleurs? Tu vois, j'en sais rien. Est-ce que le casier judiciaire existe de la même manière dans tous les pays, etc. Oui, ou alors, c'est parce que malgré leur condamnation, ils peuvent encore se présenter à une élection. Tu as raison, non, non, et puis surtout que les gens continuent à voter pour eux. Une personne condamnée par la justice, peut continuer à avoir des électeurs qui le soutiennent. Si je prends un exemple au hasard, je sais pas, moi, Jean-Luc Mélenchon, bon, il se trouve qu'il y a encore des gens qui votent pour lui, hein. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est pas mon problème. Mais voyez, c'est la preuve qu'une condamnation en justice n'empêche pas l'affection d'une partie de la population qui continue à plébisciter ces personnes-là. C'était d'ailleurs l'argument qui était utilisé par Balkany à l'époque. Quand Balkany a été réélu maire de Levallois malgré les affaires, je me souviens sur Canal+, il avait dit, vous voyez, les Levalloisiens m'aiment. Techniquement, il avait raison, il venait d'être réélu. Alors lui, il en faisait un argument contre la justice, pour dire, ces petits magistrats minables qui viennent fourrer dans mes affaires, c'est pas eux le peuple, j'ai pas de compte à leur rendre, moi je ne rends de compte qu'aux Levalloisiens et aux Levalloisiennes, etc. machin. Ah oui, il y a aussi eu, tiens, puisqu'on est en train de parler d'affaires judiciaires, etc., il y a Jordan Bardella aussi. Le journal Libération a rendu public un élément intéressant. Alors, pour ceux qui ont raté l'épisode, Jordan Bardella est poursuivi en justice dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Ok? Il est reproché par les enquêteurs au RN d'avoir mis en place un système d'emploi fictif au Parlement européen de manière à financer des permanents du parti. Il s'était passé la même chose au RPR à l'époque de la mairie de Paris. Je vous explique, c'est assez simple. Quand vous êtes député ou député européen, ça marche de la même manière. Vous avez une enveloppe d'argent, une ligne de crédit, qui est ouverte et qui vous permet d'embaucher des assistants parlementaires, des collaborateurs et des collaboratrices. En général, vous avez suffisamment d'argent pour en embaucher trois, peut-être quatre, pas plus. Mais voilà, et c'est à votre discrétion, donc vous pouvez embaucher qui vous voulez, c'est vous qui choisissez vos collaborateurs et tout, ça c'est pour tous les partis, etc. Le fait d'avoir un emploi fictif, c'est le fait d'avoir un député qui paye 4 assistants parlementaires chaque mois, sauf qu'en fait, il y en a un ou deux qui travaillent pas pour le député. Ils touchent bien leur salaire, hein, mais ils bossent pas pour lui. En fait, ils bossent pour le parti. De manière un peu déguisée comme ça. C'est une manière indirecte de financer la vie politique, tu vois, c'est un truc où tu chopes un peu de pognon de cette manière-là pour avoir un permanent pour le parti. Et c'est exactement ce qui est reproché au Rassemblement national, c'est d'avoir mis en place ce genre de truc et tout. Et parmi les assistants parlementaires dans les années 2010, il y avait le jeune Jordan Bardella, qui était assistant parlementaire d'un député européen RN, dont j'ai oublié le nom, mais en réalité c'est pas très important. Et il est reproché à Jordan Bardella d'avoir été payé par ce mec pendant plusieurs mois, mais d'avoir jamais bossé pour lui, en fait. Et donc pour se sortir de cette panade, Jordan Bardella a produit un document, une preuve de son travail à l'époque, en disant, mais si, monsieur, ben, attendez, mais je bossais à l'époque, je bossais au Parlement européen, mais si je bossais pour le député, regardez, je vais vous montrer. Il leur a montré un élément qui est un agenda. Il a dit, mais regardez, c'était mon agenda à l'époque, vous allez voir. Et effectivement, si tu parcours les pages de l'agenda, tu vois que Jordan Bardella a pris des rendez-vous, noté des déjeuners, des machins, des appels et tout. Bon, c'était un agenda de quelqu'un qui bosse, quoi. Effectivement, pour ce député-là en question. En 2015, voilà, c'était l'année, c'était 2015. C'était en 2015 qu'il était censé bosser pour ce député européen. Et donc Jordan Bardella a produit ce document devant la justice comme preuve qu'il bossait effectivement et que donc c'était pas un emploi fictif. Sauf que Libération vient de dévoiler, enfin c'est il y a 2 jours, ils ont sorti l'info comme quoi cet agenda physique, il a été acheté en 2018. Ils ont même le bon de commande. Alors ça, je me demande bien comment ils ont fait les journalistes de Libé. Mais ils ont réussi à mettre la main sur le bon de commande de l'agenda qui a été livré au siège du parti, au RN. Genre, agenda tout neuf, année 2015-2016, la destination du Rassemblement National, machin. Ça la fout mal. Ça la fout très 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 mal. Parce que là, non seulement c'est un élément de preuve en faveur de Jean Bardella qui tombe, parce que du coup les enquêteurs ils vont écarter cet agenda, ils vont dire bah c'est un faux, c'est faux en fait, vous l'avez fait des années plus tard, c'est pas vrai. Donc ça dégage. Donc non seulement ils vont écarter cette preuve-là, mais en plus de ça, Jordan Bardella va peut-être être poursuivi pour subordination de preuves. Alors je sais pas si ça existe sous ce forme-là. Faux en écriture, je sais plus exactement quel est le délit, mais il y a un délit, hein. Vous n'avez pas le droit de produire des faux. Faux et usage de faux, ouais, je sais jamais quel est l'intitulé exact du délit, mais c'est ça en gros. Produire devant des enquêteurs un faux document, c'est antidater un document, faire une fausse signature, faire un faux PV d'Assemblée Générale, faire un faux chèque, faire un faux bon de livraison, faire un faux je sais pas quoi. Si vous êtes gaulé, c'est un délit. Donc voilà, donc Jordan Bardella est bien dans la merde. J'ai vu l'article aujourd'hui de Libé qui dit que Jordan Bardella reconnaît que l'agenda existe, mais il dit c'est pas moi qui l'ai fait. Alors que c'est bien son écriture qui est dessus. Et c'est ça qui est drôle, c'est que les journalistes ont, et peut-être les enquêteurs, je sais pas, un des deux, a réussi à démontrer que c'est bien l'écriture de Jordan Bardella dans l'agenda. C'est bien sa main, on reconnaît son écriture, c'est bien lui qui écrit comme ça, etc. Ça a été certifié par plusieurs personnes qui ont bossé avec lui. Et aujourd'hui, Jordan Bardella, sa défense, c'est de dire c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit. Falsification de preuves. Ouais, peut-être. Je sais plus. Donc, Jordan Bardella est dans la sauce. L'affaire des assistants parlementaires RN continue. Mais je me souviens, moi quand j'étais collaborateur parlementaire, alors j'étais pas collaborateur parlementaire, pardon, quand j'étais collaborateur de cabinet en collectivité ou au gouvernement, je me souviens très bien que on avait l'interdiction absolue de travailler ou de prendre du temps de notre travail pour la campagne politique du moment, peu importe laquelle, le parti politique, l'association de financement ou je sais pas quoi. C'est absolument interdit. Alors nous, on respectait la loi, hein, donc on fermait nos gueules. On le faisait pas. Mais il y a d'autres partis qui hésitaient pas, quoi. Mais ouais, non, pas le droit d'utiliser... Par exemple, tu n'utilises jamais ton adresse mail pro pour envoyer un mail en lien avec la campagne. Non, ça jamais. Tu n'utilises pas le téléphone pro pour passer des coups de fil pour la campagne. Jamais. Absolument interdit. C'est du détournement de fonds publics, c'est de l'emploi fictif, quoi. C'était juste une fois au chalet pour le travail. C'est ça. D'ailleurs, c'était la compagne de François Fillon, son épouse, Pénélope Fillon, qui avait essayé de justifier son emploi. Alors, elle n'avait pas un emploi fictif. Alors, si, elle avait un emploi fictif au Parlement. Ça, complètement. Elle était censée être assistante parlementaire de son mari. Jamais rien foutu. Mais elle était aussi censée bosser pour une revue littéraire qui s'appelle La Revue des Deux Mondes. Vous vous souvenez de ce truc-là? Et je crois que, je sais plus, genre pendant 3 ans, elle était censée bosser dans ce truc-là. Elle avait un bon salaire en plus, hein, ça déconne pas. Hein. Elle était bien payée. Et pareil, pour essayer de justifier son boulot, elle a présenté des fiches de lecture. C'est genre 5 fiches de lecture. La meuf pendant 3 ans, elle était embauchée. Je sais pas si c'était 3 ans, mais c'était longtemps. Tu vois, elle était censée bosser pendant longtemps. Et genre, tout ce qu'elle avait réussi à faire, c'était lire 3 bouquins. Genre, sérieux, c'est ça l'effectivité de ton taf? Super. Elle avait été incapable de de justifier aux enquêteurs la réalité du boulot. Genre, est-ce que vous aviez des rendez-vous? Est-ce que vous aviez des réunions? Est-ce que vous aviez des traces de ces réunions et de ces rendez-vous? Est-ce que vous avez envoyé des mails, reçu des mails, envoyé du courrier, reçu du courrier? Est-ce que vous aviez des cartes de visite avec votre nom et votre machin? Je sais pas, moi, est-ce que vous aviez des relevés de téléphone immobile, d'un téléphone professionnel? Je sais pas, enfin, prouvez-nous l'effectivité de votre travail, quoi. Bon, objectivement, allez, voilà. Les clés du bureau, au moins. Est-ce que vous vous souvenez de l'adresse du lieu où vous bossiez? Je suis sûr que c'est le genre de questions qu'ils peuvent poser. Genre, tu sais, le mec était censé être un employé. Il dit, mais c'était quelle adresse déjà, votre bureau? Juste l'endroit où vous alliez tous les matins. C'était quoi l'adresse? Il y avait un digicode en bas de l'immeuble? Vous vous souvenez du code? Le mec, il se souvient de rien. Ouais, d'accord. Bah, vous allez peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. Vous y êtes jamais allé, en fait, au bureau. Putain. La couleur de la moquette. Non, non, mais grave, tu peux leur demander c'était quel étage, c'était un ascenseur ou des escaliers. C'est vraiment des détails de con, tu vois. Dis, mais en fait, si t'étais vraiment employé, tout ça, tu dois t'en souvenir, en fait. C'est bête et méchant. C'est interdit d'avoir des emplois fictifs dans le privé. Oui, absolument, c'est un abus de bien social. C'est un abus de bien social, tu n'as pas le droit d'utiliser les ressources de l'entreprise pour autre chose que pour la mission de l'entreprise. Donc tu ne peux pas salarier quelqu'un qui ne fait rien pour l'entreprise. Pas forcément obligé de venir au travail physiquement tous les jours, ça peut être des gens que tu payes à l'extérieur, des missions à l'extérieur, etc. Tu vois, des VRP, des trucs comme ça tu peux, mais tout l'argent que tu décaisses doit aller dans le sens de l'entreprise, quoi. Sinon, c'est un abus de bien social. Mon chef fout rien de sa journée, on peut appeler ça un emploi fictif. Malheureusement, non. Mieux, t'es obligé de donner du travail à quelqu'un dans une entreprise, sinon le salarié peut t'envoyer un courrier en recommandé. Ouais, mais un courrier en recommandé dans lequel il y a écrit quoi? Parce que je crois effectivement que tu as raison, c'est un délit également de ne pas donner de travail à un employé. Vous savez ce qu'on appelle un placard parfois dans certaines entreprises ou administrations, le fait de mettre quelqu'un dans un placard, c'est-à-dire un poste sans responsabilité et sans effectivité de mission en fait. C'est ça qu'on appelle un placard. Alors il y a plusieurs raisons de mettre quelqu'un au placard. Ça peut être parce que c'est un emmerdeur et que vous voulez vous en débarrasser. Ça peut être parce que c'est un responsable syndical et que vous voulez le mettre bien avec un bon salaire. Ça peut être parce que c'est... je sais pas. Parce que la personne vous l'a demandé. Il peut y avoir plein de raisons. Et donc oui, c'est techniquement, en fait, ça peut être reproché à l'employeur, ça. Harcèlement professionnel. Ouais, ça peut être constitutif d'un harcèlement professionnel. Ok. Si la personne est un peu vieille. Oui, si la personne est un peu vieille et qu'on est à 2 ans de sa retraite, tu vois, t'es en mode, bon, on va pas te virer, Michel. Ce serait moche. Tu retrouverais jamais de travail, de toute façon. Donc, si ça te va, Michel, on te file un placard. Tu viens à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux. Essaye de quand même venir. Mais on te fout la paix. Et de toute façon, c'est tes 2 dernières années, donc. On te file un intitulé à la con avec des missions du genre supervision de la mise en cohérence. Voilà, on va faire ça. Supervision de la mise en cohérence du travail. Dans certaines boîtes de sous-traitance d'entreprise, l'entreprise s'engage à fournir des missions du travail à son salarié et le salarié peut continuer de toucher son salaire sans être obligé de venir. C'est un nom, mais je me souviens plus lequel. Ah bon? Je sais pas. Oui, alors après, par contre, oui, attention, il y a aussi des moments, il y a aussi parfois, par exemple, des postes de travail dans l'entreprise qui ont des missions courtes, qui doivent intervenir sur des processus précis, à des moments précis. Et entre deux missions, il peut y avoir un temps où il se passe rien. Ouais, l'intercontrat, l'intermission, l'intercontrat, ouais, ça m'étonne pas. Effectivement, si tu es dans une boîte d'intérim ou si tu es dans une boîte qui met à disposition des salariés pour d'autres boîtes pour des missions précises, bah oui, il peut y avoir des moments où tu te fais chier, hein. Un peu comme un sauveteur en mer qui se tourne les pouces en attendant que quelqu'un se noie. Voilà. Elle est nulle, ma comparaison, on est d'accord, hein. Ça n'a rien à voir. Mais donc voilà. Donc là, tu continues à être payé, mais bon, là pendant un mois, tu vas rien foutre. Un de mes meilleurs copains, copain d'enfance, il a une vie incroyable, il est scaphandrier professionnel. Je te jure que c'est vrai. Il est scaphandrier, c'est-à-dire qu'il il est diplômé, etc. C'est un professionnel. Il est habilité à faire des travaux dans des environnements aquatiques par définition, mais dans des environnements un peu ouf, hein, sous des coques de bateaux, dans des puits industriels, dans des rivières, dans des égouts, dans des ports. Il m'a raconté qu'il avait participé au déminage du port de Rouen. Non, pas de Rouen. Pas du tout, du Havre. Port du Havre, où il y a encore des bombes de la Seconde Guerre mondiale dans la vase. C'est un peu emmerdant. Et du coup, il fallait envoyer des équipes qui allaient repérer les bombes au fond. Et ensuite, c'était les militaires qui allaient s'en occuper, mais lui, son boulot, c'était de repérer les bombes. Dans une eau où tu voyais pas plus loin que ça. Voilà. Et lui, effectivement, le marché du travail des scaphandriers, c'est un marché européen. Même ailleurs, d'ailleurs, il a fait des missions à Casablanca, je me souviens. Et il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens dans ce métier-là, parce que c'est un métier très difficile. C'est un métier où il faut être en très bonne santé, vous vous en doutez. Vous êtes surveillé par les médecins comme le lait sur le feu. Et du coup, il était envoyé sur des missions comme ça qui duraient un mois, 2 mois. Et puis entre deux missions, bah, il y a des moments où il se faisait chier. Alors lui, ça lui allait parce qu'il passait du temps avec ses enfants. Mais je crois qu'il a raccroché les palmes là. Il fait plus ce métier-là. Il l'a fait pendant plusieurs années. Maintenant, il arrête. C'est très très dur physiquement. Très dangereux. C'est très très dangereux, ouais. Ouais. Faut être rigoureux vis-à-vis de la pression de l'eau, ça peut donner des séquelles. Ah oui, non, il m'a dit que la rigueur était absolue. Par exemple, dans son métier, il m'a dit qu'il y a beaucoup d'anciens militaires. Lui, c'est pas son cas, c'est un ancien civil, mais dans son métier, il y a beaucoup d'anciens militaires qui le font pas très longtemps, hein, mais comme ils ont appris plein de trucs à l'armée, notamment dans la marine, à plonger, etc., ils mettent ça à contribution pour bosser un peu pendant plusieurs années, et puis après, ils arrêtent complètement. Ancien civil, c'est un civil. Oui, c'est ça. Un ancien civil, c'est un civil. Oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison. En tout cas, ça fait la une des journaux, l'affaire de Michel Barnier qui recadre son ministre de l'économie. Faux départ pour Antoine Armand, hein. Antoine Armand, moi, je propose qu'on lui laisse le bénéfice de la nouveauté, du doute. Antoine Armand, il a cru, de bonne foi, qu'il était dans un gouvernement antifasciste. Voilà, bon, il a fallu que Michel Barnier lui dise non, non, bah non, non, bah non, enfin, Antoine, quand même, enfin. C'est l'erreur bête, c'est l'erreur bête, c'est l'erreur bête. Franchement, c'est l'erreur bête. J'ai pas envie que ça lui pèse pour l'avenir de toute sa carrière. On peut tous se planter le premier jour, on sait pas, on tâtonne et tout. On dit des conneries au micro France Inter. Voilà. Il s'est passé quoi? Pour ceux qui ont raté, Antoine Armand, ministre de l'économie, a déclaré ce matin au micro de France Inter qu'il refusait de discuter avec le RN, parce que le RN, ils font pas partie de l'arc républicain. Et bon, bah, dans la foulée, Michel Barnier l'a recadré, en lui disant si, si, tu vas carrément parler avec le RN, en fait. Tu vas les recevoir dans ton bureau, en fait, comme tous les autres. Pas de... Et plus que ça, Michel Barnier a téléphoné à Marine Le Pen. Michel Barnier, le Premier ministre, a téléphoné à Marine Le Pen pour la rassurer. Et lui dire, rassurez-vous, il n'y aura pas de discrimination envers le Rassemblement national. Nous, on déteste les discriminations. Il n'y en aura donc pas. Promis. Et c'est parce qu'on déteste les discriminations qu'on vous obéit. Indirectement, mais un peu quand même. Promis. Voilà. Non, pardon. Enfin, promis. T'as vu le ministre de la Recherche? Oui, j'ai vu le ministre de la Recherche, Hetzel, c'est ça? Qui est un ancien promoteur de l'hydroxychloroquine. Vous vous souvenez de cette époque? Les plus jeunes, là, vous avez peut-être raté ça, mais les autres, vous vous souvenez de cette époque? À l'époque de la guerre, là. La guerre du Covid. C'est pas moi, c'est Macron qui l'a dit qu'on était en guerre. Hein. Quand il y avait des députés ou des responsables locaux qui venaient à la télé pour dire, moi je crois en l'hydroxychloroquine. Moi je crois en l'hydroxychloroquine. C'était fou, hein, quand on y pense. C'était fou. Et bah Patrick Hetzel, visiblement, lui, il faisait partie du lot, en fait. Il faisait partie de ces députés qui disaient c'est intolérable qu'on mette de côté comme ça le grand professeur Raoult. L'immense, pardon, que dis-je, l'immense professeur Raoult, et qu'on le mette de côté comme ça. Ça sent la manipulation en haut lieu. Vous vous souvenez que... quand même, je vais me rafraîchir la mémoire, mais vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, président de la République en exercice, était allé à la rencontre de Didier Raoult? Attention, qu'on soit précis, c'est pas Didier Raoult qui est venu à l'Élysée rencontrer le président de la République à son invitation. Non, 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 non. C'est le président de la République qui s'est rendu dans le bureau de Didier Raoult. Jamais ça existe ça. Jamais un président de la République ne se rend dans le bureau de quelqu'un. C'est éventuellement lui qui reçoit dans un bureau. Mais on fait jamais ça. Alors il paraît, j'ai entendu dire, qu'en sortant du bureau de Didier Raoult, Emmanuel Macron aurait dit à ses collaborateurs, il est complètement timbré ce mec. Non, c'est bon, c'est tout vu, j'ai vu, non, c'est bon. J'ai passé un quart d'heure avec lui dans son bureau, là, c'est bon. Next. Il n'y a rien qui va. Le mec a un melon comme ça. C'est, ouais. Tout le monde a tort à part lui et tout. Non, 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 on arrête. Allez, ciao, bye. Il a fallu qu'il y aille pour s'en rendre compte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors, il aurait pu juste regarder la télé comme tout le monde, mais bon, il a voulu en avoir le cœur net. Pareil, je suis pas chaud pour que ce soit le président de la République qui fasse le casting d'un conseil scientifique, mais bon, vous savez au point où on en est. Hein. On a un président de la République qui organise des cérémonies d'ouverture des JO, de clôture des JO, de célébration des champions, etc. Je suis sûr qu'il participe à la sélection des Bleus. Il vient à mon anniv? Il vient à ton anniv, Macron? Fais gaffe, hein, il va vouloir organiser la playlist, il va vouloir retravailler la décoration. Bon, avec un peu de chance, il va faire un gâteau, s'il est sympa. Mais parle pas mal de Jupiter. Il m'a aidé à choisir les nouvelles plinthes pour la salle de Il m'a dissous de ta famille. Jaloux. Oui, je suis jaloux, je suis jaloux. Je suis jaloux. D'Emmanuel Macron. Si seulement je pouvais arriver à son niveau. D'ailleurs, je propose qu'un jour, on laisse Emmanuel Macron faire la rédaction en chef de Baxit. Genre rédacteur en chef d'un jour. Il choisit les chroniqueurs, choisit les invités. Les questions du quiz à la con. Je sais pas pourquoi. La première idée qui me vient en tête, c'est qu'elle va être chiante cette émission. Je sens qu'on va se faire chier. Vous échangez vos métiers pendant une journée. Ah ouais, Macron qui stream sur ma chaîne et moi qui préside la République pendant 24 heures. Ouais, on va faire ça, ouais. À tout moment, il va dissoudre ta chaîne. Putain, j'avoue. Il va vous dissoudre vous, hein. Il va dissoudre le chat. Enfin, il va essayer, il va chercher l'option. C'est où la dissolution? Comment je peux les dissoudre? Y a pas? Slash ban all. Le petit ban all. Est-ce qu'on va parler du dossier Shikiru? On en a déjà parlé tout à l'heure. Il n'y a plus grand-chose à en dire. De toute façon, l'enquête suit son cours. Elle est désormais placée sous le statut de mise en examen. Et voilà, on verra. À mon avis, il faut encore attendre plusieurs mois. Hein. Ça va prendre du temps, cette histoire. On peut ouvrir le dossier Jeunetet. Anne Jeunetet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Alors, de ce que j'ai compris, Anne Jeunetet, elle a bossé pendant longtemps en Thaïlande, c'est ça? Enfin, en Asie du Sud-Est, en tout cas, Anne Jeunetet. Et elle a monté Singapour? Ah, Singapour, Singapour, pardon. Singapour. Ah bah oui, un paradis fiscal, tant qu'à faire. Elle a bossé à Singapour, elle a vécu à Singapour et elle a créé un site internet qui proposait des services pour aider les expats comme elle à trouver des femmes de ménage, en gros. Ce qu'elle appelait des helpers. C'est typiquement une meuf de LinkedIn, ça m'énerve. Et donc sur son site internet, semble-t-il, elle donnait des conseils aux gens, notamment les Français, mais les autres en tout cas, sur comment recruter une femme de ménage, généralement indonésienne, hein, mal payée, etc. Et alors par contre, les racistes, ça dégage. Dans son site internet, semble-t-il, elle conseillait aux gens des trucs que font les expats, mais que d'habitude ils ont l'intelligence de cacher, faire ça discrètement. Donc elle expliquait qu'il fallait recruter quelqu'un, de préférence quelqu'un qui n'a jamais bossé pour des expatriés, parce que comme ça ce sera quelqu'un de plus docile, qui pourra mieux, elle aura pas d'exigence, tu pourras plus l'exploiter. C'est un petit tips. Petit tips, hein. Les bonnes astuces. Ouais, c'est ça, elle donnait des bonnes astuces. Elle faisait des formations pour les domestiques. Elle disait helpers, mais appelons un chat un chat. Regardez le screenshot de sa formation avec Clément. Ah ouais? Oui, des domestiques, enfin des personnes, des employés de maison. Quelle que soit leur tâche, j'en sais rien. Mais elle donnait, ouais. Un expatrié, c'est pas comme ça qu'on appelle un immigré quand il est blanc. Théoriquement, un expatrié, c'est quelqu'un qui a vocation à revenir sur le territoire national. L'expatriation, à la différence de l'émigration, c'est pas une installation définitive pour y faire sa vie. En principe. Elle déconseillait aussi de donner des congés parce que c'est pas obligatoire. Putain. Ah oui, elle recommandait pas de les loger dans des cagibis aussi? Genre sous l'escalier comme Harry Potter? J'avais cru comprendre qu'elle avait publié une photo du cagibi dans lequel elle logeait son employé. Juste pour modérer un peu, helpers ou maid, c'est un peu le terme qu'on utilise en Asie du Sud-Est, peu importe la langue. Ok, d'accord. C'est le terme générique utilisé pour parler des employés de maison, c'est ça? Que ce soit du jardinage, que ce soit des tâches domestiques, du ménage, de la garde d'enfants, etc. Helper, c'est le terme générique. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Elle veut que les expats dont elle puisse bénéficier d'avoir une retraite, même sans cotisation. Ah bah tiens, pourquoi se priver? Pourquoi elle a été choisie? C'est quoi les critères du casting? Bonne question. Alors ça, pour le coup, je sais pas du tout. Malheureusement, contrairement aux apparences, je ne suis pas dans les petits papiers. Suis pas dans les petits papiers de Michel Barnier. Je ne sais pas quelles ont été ses décisions. À mon avis, il avait besoin de mettre quelqu'un venant des Républicains, si je dis pas de conneries. Elle vient des Républicains? Elle a été choisie parce que Spielbou a été refusé. Ok, d'accord. Non, je crois qu'elle est macroniste. Ok, elle est macroniste, d'accord. Anne Jeunetet. Pourquoi j'avais déjà entendu parler d'Anne Jeunetet? Je crois que je ne l'ai jamais interviewée, sinon je m'en souviendrai, ça, ce serait un peu gênant. Anne Jeunetet. Toum, 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 toum. Français établi hors de France, évidemment. Conseil municipal d'Escamps, nom de la commission de la défense. Ah, elle était dans la commission d'enquête Uber Files. Eh ben on est bien. Merci Luma pour le raid. Merci Luma, on était en train de parler d'une gigastar, Anne Jeunetet, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale. On est sur une Rolls, hein. D'ailleurs, politiquement, je pense que les enseignants, au lieu de vous plaindre là tous les jours, vous pourriez pas être content un peu d'avoir une personnalité aussi expérimentée en matière d'éducation? Jamais content cela. AOC me manque déjà. Elle a été élève. Elle a été élève dans tout le système scolaire. Bon, ça se trouve, elle était dans le privé. Attends, attends, je vais regarder ça quand même. Attends. Elle est née à Neuilly-sur-Seine. Commencez par un. Ah non, on n'a pas d'infos sur sa tendre enfance. On sait juste qu'elle s'est mariée, qu'elle a obtenu un diplôme de docteur en médecine. Diplôme en journalisme médical et communication. On n'a pas d'infos sur sa scolarité. C'est dommage quand même, hein, c'est dommage. Pour une ministre de l'Éducation nationale, je pense que je serai journaliste, je lui poserai la question. Elle était dans le public. Très bien. Elle a éduqué des employés de maison à Singapour. C'est horrible. C'est horrible. Et voilà, elle a fait techniquement, elle a fait de l'éducation, hein. Elle aura appris les bonnes manières. Le public à Neuilly, bien sûr qu'il y a du public à Neuilly. Moi, j'ai fait un an de ma scolarité dans le public à Neuilly-sur-Seine. J'étais au lycée Saint-James. Alors, il a bien changé depuis, je crois. Mais j'ai fait un an à Neuilly, ouais. Dans le public. Hmm. Il y a aussi le lycée Pasteur. Alors le lycée Pasteur, pour le coup, ça c'est prestigieux. Le célèbre collège-lycée, c'est un groupe scolaire, hein, Pasteur, c'est énorme. Le célèbre collège-lycée Pasteur, lui, il est très prestigieux. Le lycée d'où j'étais, moi, pas prestigieux du tout. Est-ce que tu as fait du public ailleurs pour pouvoir faire la comparaison? Ouais, bien sûr. J'ai fait du collège public, j'ai fait du lycée public après. Quand j'ai quitté Neuilly, je suis retourné plus près de chez moi, dans le lycée public du coin. C'était trop cool. Toi, t'es prestigieux. Tu crois qu'ils vont mettre sur la page Wikipédia du lycée, lycée où était Jean Massier, le célèbre streamer? Quel enfer. T'es francilien depuis le day one? Ouais. Moi, j'ai spawn à. Merde, à la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai grandi en Île-de-France, dans la proche banlieue parisienne. Alors moi j'étais dans l'ouest, dans la banlieue ouest, bah, pas très loin de Neuilly-sur-Seine, du coup de l'autre côté du fleuve, à Courbevoie. Et je me suis installé à Paris, j'ai Rally Point à Paris à l'âge de 18 ans. J'ai reçu ton livre à mon taf ce matin, ça m'a surpris, j'étais pas au courant. Ah bah c'est gentil. Mais t'es qui? Mais t'es très très heureux que t'aies reçu le bouquin, hein. Y a des postes sympas à Courbevoie, ma copine vient de s'y installer. Courbevoie, c'est très sympa. Alors, fou, putain, faut y aller mollo quand on dit ça. Hein. Courbevoie, c'est une ville qui est tout en longueur, le long de la Seine, et tu voyages en fonction du quartier où t'es. Au début, j'ai popé dans le quartier Bécon-les-Bruyères, alors plutôt proche du fleuve, pas trop proche de la gare, qui est le seul endroit un peu sympathique, qui avait un petit esprit village. Mais Courbevoie, c'est beaucoup de grands ensembles immobiliers très froids et très chiants. Et moi, j'ai grandi dans un de ces grands ensembles immobiliers. Et ensuite, plus tard à l'adolescence, j'ai déménagé de l'autre côté de Courbevoie, plutôt proche de la Défense. La Défense, c'est le quartier d'affaires. Faut aimer le béton, hein. Faut aimer les gratte-ciel et le béton. Moi, ça me dérangeait pas, je faisais du skate. J'étais un mec cool, donc ça m'allait très bien. Mais ouais. Proche de Nanterre, ouais, c'est proche de Nanterre, bien sûr. Courbevoie, c'est très proche de Nanterre, ouais. J'allais à Nanterre en skate, hein, je m'en souviens très bien. C'est vraiment à côté. Hein. La Défense, c'est horrible. Non, mais c'est marrant parce que moi, ça m'a marqué quand j'étais ado. La ligne 1 du métro parisien qui s'arrête, et il y a aussi le RER A qui s'arrête à la Défense. Tous les matins, ce métro vomit une quantité astronomique de personnes qui vont travailler dans les tours de la Défense. Et les gens qui vont bosser dans les tours de la Défense sont tous habillés pareil. C'est que des mentons longs, gris, noir, triste, des costumes cravates avec un attaché-case dans la main droite, un parapluie dans la main gauche. Mais vraiment, c'est des hordes de gens comme ça qui dégueulent chaque matin des armadas entières sur le parvis de la Défense, des gens qui trottinent un peu parce qu'ils sont un peu en retard et qui voudraient pas que leur boss les gronde et tout. Et le soir, pareil, c'est des gens qui se cassent le plus vite possible pour rentrer chez eux et qui s'engouffrent dans le RER pour repartir chez eux. Des PNJ, ouais, c'est vraiment ça. Et moi, j'étais ado, j'ai vu ça, j'ai fait jamais de ma vie je travaille dans une tour, mais plutôt crevé. Vraiment, ça me. C'était horrible. C'est vraiment la déprime, ouais. Après, à la Défense, il y a un centre commercial qui s'appelle les 4 Temps, et c'était le centre commercial où les jeunes se retrouvaient. Moi, j'étais ado avec les copains et les copines. On allait aux 4 Temps se faire un McDo. T'as vu, Dayum? Bah, truc d'ado, quoi. On allait au centre commercial du coin. Mais comme c'était juste après le 11 septembre 2001, je me souviens très bien que ma mère nous avait dit à ma sœur et moi, vous allez pas aux 4 Temps. On va pas près des tours. on y allait quand même. À l'époque, c'était encore un peu vivant les centres commerciaux, non. Non, c'était triste. Il y avait juste un McDo et un ciné, ce qui, quand t'es ado, est parfait. On allait se rouler des pelles au ciné et après on allait manger un McFlurry. Avec ta sœur? Sûrement pas. Eh, hey, je traînais pas avec ma sœur, hein, ça va pas ou quoi? Ça va, hein? Trop la honte. Je traînais avec mes potes. Avec tes potes. Non, c'est du skate. Galoche tes potes. tu roulais des pelles à tes potes. Non, à leur sœur. Mais non, c'est même pas vrai en plus. Plus je raconte ça, je fais genre, alors qu'en fait, j'ai dû rouler des pelles une fois à une meuf au cinéma. Vraiment. Mais donc voilà, donc ouais, non, enfin moi c'est Courbevoie, c'est des souvenirs d'adolescence, tu veux, j'irais pas m'y installer aujourd'hui. Et alors j'ai appris des années plus tard qu'en fait on avait carrément grandi à côté avec Mister MV. Lui aussi il est de Courbevoie. Le vieux monsieur. Ah, lui aussi, il est de Court Beach, comme on l'appelait. Avec Arrache de Rambarche. Oh putain, on m'en reparle plus jamais. Les stars locales. Vraiment. Jean qui roulait des pelles à Xavier au ciné. T'es con. À la gare de Bécon-les-Bruyères, c'est pas rare de croiser McFly. M'étonne pas. Ouais, non, m'étonne pas. Mais ouais, non, Courbevoie, c'est grand. Il y a quand même beaucoup de place, beaucoup d'endroits, etc. Et tu vois, le souvenir que j'ai de Neuilly-sur-Seine, c'est que c'était chiant à mourir, Neuilly-sur-Seine. C'est vraiment une ville chiante. Il se passe rien. C'est que des hôtels particuliers coincés les uns à côté des autres, qui s'alternent avec des grands ensembles immobiliers sordides. Mais il se passe vraiment rien. À part à Pont de Neuilly, il y avait un peu d'ambiance à Pont de Neuilly. C'était cool. On allait skater là-bas. C'est la banlieue riche parisienne. Bah oui, non, je sais bien. Neuilly-sur-Seine, c'est la banlieue riche parisienne où on se fait chier, quoi. Il se passe rien. Alors que nous, on s'amusait un peu, quoi. Dans les tours, au pied des tours, à Courbevoie, il y avait un peu de l'ambiance. Ouais, donc on était en train de parler de Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, et on était en train de se dire que c'était. On était quand même sur du niveau. On était quand même sur du bon niveau en termes de ministre. Et qu'on a hâte, mais vraiment hâte, d'écouter ses premières interviews un peu sérieuses. On verra ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous avez vu passer dans l'actu qui est intéressant? Moi, j'ai un peu fait le tour là de ce que j'avais sous la dent en termes de ministre un peu funky. Chikirou, on en a déjà parlé. La réforme de l'AME, je ne sais pas si elle est déjà sur la table. Je sais que c'est une volonté de Bruno Retailleau, et ça fait longtemps qu'il le propose d'ailleurs au Sénat. Les députés, les sénateurs, pardon, LR ont déjà voté plusieurs fois des amendements pour supprimer l'AME, ou des budgets rectificatifs, ou des trucs comme ça. Il y a le streamer Jean Massier qui sort un bouquin. Ça sort demain chez votre libraire. Les jeunes, c'est le présent aux éditions Payot. Achetez-le, il est bien. Il est ministre de l'Intérieur, c'est pas son taf. Si. Si, indirectement, parce que le ministre de l'Intérieur s'occupe des questions d'immigration. Donc il a un regard sur les questions qui touchent aux prestations que perçoivent les immigrés sur le territoire. Le recadrage d'Armand, ouais, on en a parlé, ouais. Non, c'est impressionnant, hein. Kasbarian en ministre de la fonction publique, c'est pas Jojo. De mémoire, Kasbarian est connu pour être un libéral. Un vrai, vrai gros libéral. Ministre de la fonction publique, je sais pas, il va peut-être poursuivre les réformes du management des fonctionnaires. La progression au mérite. Libéral-libertaire même. Ah ouais? C'est un libertarien? Eh ben. Il y a Genevard à l'agriculture aussi. Ça, je vous avoue que Genevard à l'agriculture. Annie Genevard. En même temps, elle a été maire d'une commune rurale, la ville de Morteau, en Franche-Comté. Elle est députée du Doubs. Elle fait des études de lettres. Et ensuite, elle a fait de la politique. Elle est députée d'où? Elle est députée du Doubs. Le département du Doubs. Qui va travailler sur les questions liées au handicap? C'est le ministre des Solidarités. Elle n'est pas vraiment progressiste. Ah non, mais j'espère qu'à ce point-là, tu n'avais plus d'espoir en ce sens. Enfin, je veux dire, s'il s'agit pas. Non, oui. Aucun membre du gouvernement n'appartient au camp des progressistes. C'est plus trop l'ambiance, là. Ça fait la gueule chez les assos sur le handicap qu'ils aient oublié le mot handicap dans le titre du ministère. L'important, c'est les attributions, mais je comprends effectivement en termes de symboles, c'est pas ouf. Ouais, je suis d'accord. C'est sous la tutelle de quel ministère, du coup, le handicap, sport ou éducation? Alors, ni l'un ni l'autre, je vois pas pourquoi il le serait ni dans l'un ni dans l'autre. Les thématiques et les politiques liées au handicap sont, depuis toujours, gérées par le ministre des Solidarités, qui s'occupe du handicap, qui s'occupe des personnes âgées, qui s'occupe des familles, qui s'occupe de la petite enfance. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Alors, ça s'est pas toujours appelé solidarité, ça s'est appelé affaires sociales. Mais ça change rien. C'est récent, le ministère des Solidarités, sous cette appellation. De mémoire, ça date de 2017. Ministère des Solidarités, je crois que c'est 2017. Est-ce que ce gouvernement a été créé principalement pour assurer les instances financières et européennes? Non. La preuve, il s'alarme déjà. C'est pas la loi et le débat en vue de la laïcité. Attends, ils vont faire une loi laïcité? Non. Tiens, d'ailleurs, s'ils censurent, c'est Barnier qui s'en va ou l'équipe ou les deux? Les deux. Qui pense comme moi que ce gouvernement a 6 mois d'espérance de vie au maximum? Tout va dépendre du Rassemblement national et de Marine Le Pen qui, semble-t-il, souhaite qu'il y ait de nouvelles élections dans un an. Et en attendant, je crois que le RN va pouvoir se contenter de ce gouvernement qui va s'efforcer de ne pas la froisser. Que vient faire Migaud dans ce gouvernement? Il n'a pas l'air d'être dans le bon mood que les autres, dans le même mood que les autres. C'est une bonne question, écoute, j'en sais rien, disait Migaud, il a peut-être saisi sa chance d'avoir un ministère quand même très prestigieux, hein, le ministère de la Justice. Didier Migaud n'a jamais été au gouvernement. Il a été à des postes importants, il était à la Cour des comptes, il était à la commission des finances, il a été à la HATVP, mais il n'a jamais été... Il n'a jamais été ministre de la Justice, peut-être qu'il va se retrouver au Conseil constitutionnel après. Je sais pas. Il ne peut que proposer des lois RN compatibles. Il n'est pas obligé de proposer des lois RN compatibles, mais il est obligé de proposer des lois qui ne fassent pas, qui ne créent pas une censure de la part du RN. C'est pas tout à fait la même chose d'obtenir les votes et de faire des et d'obtenir la et d'échouer d'une censure. Je sais pas. C'est 49-3, que fait le RN? Ça dépendra du projet de loi. Ça dépendra du projet de loi. Si le gouvernement engage la procédure de 49-3 sur un projet de loi de réforme de la justice qui aggrave les peines pour les mineurs, donne un tour de vis sécuritaire, etc., Marine Le Pen va pas censurer, hein. Dire non. Mais je vous rappelle que les 49-3, on peut en faire qu'un seul par an, hein, sauf loi budgétaire. Du coup, il n'y aura pas de 49-3 si le RN est pour. Alors, tu as raison, Michel Barnier devra s'assurer du vote favorable des députés RN. Mais Marine Le Pen, elle ne va pas le donner gratuitement, le vote de son groupe. Elle va faire monter les enchères. Il faudra voir de ce que donneront les négociations. Loi budgétaire, c'est éliminé? C'est illimité? Oui, il y a autant de 49-3 possibles que de lois budgétaires. Je rappelle que les lois budgétaires, ce sont les projets de loi de finances, les projets de loi de finances rectificatifs, les projets de loi de règlement, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, les projets de loi de règlement. Est-ce que du coup la proposition d'abrogation de la loi retraite RN va-t-elle passer vu que le gouvernement est un peu sous menace? Bah non. Non, pas nécessairement, parce que là pour le coup c'est une proposition de loi du RN. Si le NFP ne la vote pas, elle ne passe pas. Et attention les amis, quand bien même elle passe, elle ne passe pas au Sénat. Donc c'est pas grave, ça veut dire qu'il y aura un aller-retour, que ça reviendra à l'Assemblée nationale qui pourra avoir le dernier mot. Ça c'est vrai. Mais ça prendra beaucoup de temps. Et je ne vois pas pourquoi le nouveau Front populaire ferait ce cadeau à Marine Le Pen. D'autant qu'il faut voir les modalités de financement de la retraite, hein, prévues par Marine Le Pen. Je crois qu'elle a prévu la suppression de l'AME. Pas sûr que la gauche vote ça. C'est quoi l'AME? Pardon, l'AME, c'est l'aide médicale d'État. C'est une prestation sociale dont peuvent bénéficier des personnes qui n'ont pas la nationalité française mais qui sont présentes sur le territoire national et qui leur permet d'avoir accès à un panier de soins. C'est un système de remboursement de frais médicaux pour des étrangers. Et depuis des décennies, la droite et l'extrême droite ont l'AME dans le viseur parce qu'ils estiment que ces prestations sociales gratuites sont un appel d'air à l'immigration et que ça facilite l'immigration, que ça incite à l'immigration. Sous-entendu, les étrangers auraient intérêt à venir en France puisqu'une fois arrivés, ils pourront bénéficier de soins gratuits. Voilà. Et du coup, la droite et l'extrême droite proposent de remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence. Donc, une personne en situation irrégulière qui se présente aux urgences pourrait bénéficier de soins gratuits. Il lui serait accordé assistance, bien entendu. En revanche, pour tous les autres soins, la personne devrait payer elle-même de sa poche. Problème avec la suppression de l'AME, c'est qu'un certain nombre de médecins font remarquer. Alors déjà, des spécialistes de l'immigration font remarquer que c'est pas du tout ça qui attire les gens à traverser la Méditerranée et à venir en France. D'autre part, un certain nombre de médecins font remarquer que supprimer l'AME, ça participera à éloigner un public particulièrement vulnérable, que sont les étrangers en situation irrégulière, des soins. Or, il est important de leur apporter des soins le plus rapidement possible, pour des raisons de santé d'une part, mais aussi pour des raisons économiques et budgétaires. C'est-à-dire qu'il faut pas laisser le malade aggraver sa maladie et ne le soigner qu'une fois qu'il se présente aux urgences quand c'est trop tard. Faut prendre en charge à temps les maladies, etc. Par ailleurs, il y a aussi des maladies qui circulent et que l'AME participe à réguler et à empêcher de circuler, notamment les hépatites. Sous-entendu, les virus et les bactéries se foutent pas mal des papiers ou de pas de papier. Ils participent, ils passent de corps humain en corps humain. Donc c'est pas du tout dans l'intérêt de la population française de tenir éloignée des soins une population à risque. Voilà le débat, tel qu'il est posé depuis très longtemps. C'est les éléments de langage de JLM 2012, mais c'est juste. Alors, non, il n'y a pas... Putain. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon dans la classe politique française. Il y a aussi par exemple Marisol Touraine quand elle était ministre de la Santé et qu'elle s'est opposée à la suppression de l'AME. Est-ce que les gens de droite ont le droit d'être ici? Évidemment, pourquoi ils pourraient pas être là, les gens de droite? Ils font ce qu'ils veulent. Ça existe depuis combien de temps, l'AME? Oh, c'est une bonne question, ça. L'AME, c'est une création de... C'est pas le gouvernement Rocard en 90? Ou alors je confonds avec la CMU? Ça devait faire partie du même panier. C'est le gouvernement Jospin, l'AME? C'est possible. JLM, c'est pas le seul politique en France? Et non. Par contre, c'est le seul politique à gauche, hein. Attention, personne d'autre que Jean-Luc Mélenchon n'est de gauche, hein. N'oubliez jamais ça. C'est très important. Non, parce qu'après, les gens, ils se perdent et tout. Commencez par, hein. Comment tu sais tout ça sur Touraine? Mais c'est moi qui ai écrit les argumentaires sur l'AME. C'est moi qui ai écrit les argumentaires contre la suppression de l'AME. À l'époque. C'était il y a 10 ans, vous vous rendez compte? Ça ne rajeunit pas, putain. Non, mais ça me rajeunit pas de voir qu'on est toujours dans les mêmes débats de connards pour savoir s'il faut supprimer la ME. Enfin, je veux dire, on n'est toujours pas sorti de ce débat. Ça me fume. C'est quoi l'affaire avec Chikirou? Chikirou était directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais elle était aussi la patronne de l'entreprise qui facturait à la campagne les prestations de communication. Et il lui est reproché d'avoir surfacturé, voire même inventé un certain nombre de prestations, de manière à bénéficier plus facilement, enfin plus largement des remboursements des frais de campagne par l'État. Donc c'est ce que lui reprochent les enquêteurs, qui l'ont formellement, du coup, un juge d'instruction aujourd'hui l'a formellement mise en examen, ce qui est une étape dans le processus judiciaire et elle sera peut-être renvoyée devant un juge à l'issue de la phase d'enquête. Voir le complément d'enquête sur Sophia Chikirou. Alors, attends. Le complément d'enquête sur Sophia Chikirou, de mémoire, il est sorti le 6 octobre 2023. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé le 7 octobre? Les attentats du Hamas. J'en ai parlé avec un journaliste qui m'a dit putain c'est ouf à quel point Sophia Chikirou elle a eu le cul sauvé par les attentats. Personne n'a parlé du complément d'enquête. Personne. C'était l'actu était plus là du tout. C'était terminé. Elle a eu chaud à l'époque, au moment de la sortie du complément d'enquête. Alors que le reportage est vachement incriminant. Ouais, c'est pas le souvenir que j'en avais, moi. Je l'avais regardé à l'époque et j'étais en mode oui, non, on n'apprend pas grand-chose. Alors, complément d'enquête, un peu comme d'hab, hein, complément d'enquête, vous les connaissez, ils en font un peu trop des caisses sur des trucs qui en vrai sont pas ouf. Et comme ils ont que ça à se foutre sous la dent, bah, ils font monter la mayonnaise et ça fait du sensas, mais. C'est pas toujours très bon, complément d'enquête. Comme en termes de niveau de journalisme et en termes d'intérêt de ce qu'ils racontent et de ce qu'ils sortent. Ça dépend. C'est très inégal. Ouais, c'est ça, c'est très inégal. Ils ont des reportages vraiment bien intéressants où tu sens qu'il y a eu un gros travail derrière. Et il y en a d'autres, t'es en mode. Sérieux. On dirait du M6 à la mauvaise époque. Genre, vraiment pas bon. Et Cache Investigation, c'est à peu près pareil. Hein, je... Élise Lucet avec son micro, ça fait très sensationnel et ça fait très pris sur le fait et tout, alors que parfois c'est pas si intéressant que ça. Les trucs qu'ils ont sortis sont vraiment pas dingues. Toute réponse apportée par quelqu'un qui est acculé par un micro, une caméra, une perche, est de toute façon une présomption d'insincérité. Donc, au moins c'est rigolo en termes de réal. Ouais, bah tu vois, je trouve que ça sert pas vraiment l'objet. Ça fait très sensas, ça fait très spectaculaire, mais bon. Difficile de faire des dossiers pour tout. Mais non, mais c'est ça exactement. Et c'est le problème de ce type d'émissions qui ont besoin de faire des dossiers régulièrement. C'est-à-dire qu'ils ont une chaîne qui commande, donc, enfin qui commande, qui leur achète des trucs, donc il faut trouver des affaires. Il faut trouver des trucs à dire, il faut trouver des trucs à monter, il faut trouver des trucs. Donc ça dépend. C'est pour ça que c'est très inégal, hein. Des fois, ils font vraiment des trucs nuls et tu sens qu'ils ont été obligés d'accélérer un peu le process et de sortir quelque chose de cette sombre merde dans laquelle ils avaient en fait pas grand-chose. Mais tu vois, c'est toute la différence entre le journalisme d'investigation et l'investigation documentaire, c'est que le journaliste d'investigation, lui, il n'a pas l'aspect spectaculaire des images. Fabrice Arfi, lui, il a que les mots, en fait. Et donc avec ça, tu es obligé de sortir une putain d'argumentation avec des docs, avec des... T'es obligé, en fait. Il peut pas débarquer avec des caméras et tout. Oui, mais la majorité des gens regardent la télé, pas Fabrice Arfi. Mais ça change rien, ça. Je juge pas la qualité d'un travail à la quantité de personnes qui le consultent, ce travail. Tu penses que le Cache Investigation de McKinsey est pas au niveau? Je l'ai pas regardé en entier, mais j'ai l'impression qu'on apprend rien de plus que ce qu'on savait déjà. Après, c'est peut-être le problème des gens comme moi qui sont surinformés et qui lisent tout, etc., qui font que, évidemment, je tombe pas des nues parce que je suis désolé, McKinsey, c'est la mission d'information ou la commission d'enquête à l'Assemblée qui nous a appris beaucoup de choses. C'est le travail de Mediapart qui nous a appris beaucoup de choses. C'est pas Cache Investigation. C'est de la vulga. Ouais, c'est ça, c'est de la vulga. Non, mais très bien. Après, il y a des ficelles qui sont un peu grosses. Je me souviens, c'était dans le Cache Investigation sur McKinsey, qu'ils font un ratio entre le prix de la prestation et le nombre de pages. Et que donc, ils disent une page égale tant d'argent. Ils divisent le prix total par le nombre de pages. Et ça c'est gros, ça. Parce que c'est grossier, faut pas faire ça. C'est nul. C'est pas un arc, enfin c'est ça veut rien dire, ça marche pas comme ça. il faut, enfin, je veux dire, il faut porter une critique sur ce qu'il y a dans le papier. Pas le nombre de pages, c'est pas important, on s'en fout. Genre, vraiment, s'il s'agit d'en faire des caisses pour en faire des caisses, moi, dont ça a été le métier pendant une année, je peux vous dire que je sais faire, hein. Je peux vous en pondre, hein, des pages. Des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. C'est vraiment s'il faut ça pour justifier un prix. Donc non, c'est... Tu vois, typiquement, cet argument-là, je le trouve pas intéressant. C'est comme si tu divises le financement de la NASA par le nombre de pas sur la Lune. Ouais, il y a un peu de ça. Non, mais oui, il y a un peu de ça. J'ai ce petit jeu-là, c'est comme juger un code informatique par le nombre de lignes de code. Non, c'est pas la taille qui... Enfin, ça marche pas comme ça. Mais encore une fois, ça peut impressionner des gens qui n'y connaissent rien. Moi, j'y connais rien en code informatique. Donc, effectivement, si tu fais un ratio entre le nombre de lignes de code et ce que j'ai payé, je veux dire, dis donc... C'est cher payé la ligne de code, hein. Mes frères, ça marche pas comme ça. C'est complètement con. Ça a existé? Ah ouais? Quel enfer! La relativité restreinte d'Einstein, c'est un papier d'une page. Ah oui, non, mais je crois que tu prends tous les papiers qu'a publié Albert Einstein en 1905, qui ont révolutionné la physique. Ça tient dans une chemise, hein. C'est pas un pavé, hein. Voilà, c'est. Donc, bref, enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que vous savez comme moi que c'est pas des arguments intéressants. Enfin, c'est censé impressionner, censé faire peur, c'est censé. Montrer un décalage et tout, mais faut pas se faire avoir parce que ce genre d'argument, c'est pas les bons en fait. Parce que heureusement qu'on regarde pas le nombre de pages produites par Sofia Chikirou et on fait un ratio par rapport à ce qu'elle a facturé au parti, hein. Donc voilà. Tant mieux. C'est de l'info spectacle. Ouais, un peu, un peu, un peu. Mais bon, c'est pas... encore une fois, c'est pas très grave. Hein. Alors que tu prends Didier Raoult, il en a publié des papiers. Hein. Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Est-ce que Jean-Luc, il est inquiété dans l'affaire Chikirou? Il pourrait l'être. Oui, il pourrait l'être en tant que donneur d'ordre final de la campagne. C'est tout à fait possible. Suis en train de finir mon manuscrit de thèse. J'aurais bien aimé une facture pour le nombre de pages. Non mais voilà, tu vois, une thèse, pareil, une thèse. Bon, une thèse, tout le monde sait qu'il faut lire l'intro et la conclusion. Je rigole. Je rigole. Mais c'est ce que tout le monde va faire. La table des matières. Oui, histoire de se donner un peu de consistance. Et c'est pareil pour mon livre, hein. Le lisez pas en entier. Le lisez pas en entier. Grignotez un peu. Tu check l'intro. Voilà, l'intro, elle fait 3 pages. Ça va. Tu checkes la conclusion. Ah non, c'était pas la conclusion, ça. C'était le dernier chapitre. La conclusion fait 1 page et demie. Voilà. Par contre, tu payes les 19 euros du livre. Ils sont là. Ça, c'est important. Parce que ça me permet de bouffer. Et tu fais un ratio sur le prix que t'as payé et le nombre de pages que t'as lues. Fais 4 pages du coup, si tu fais introduction plus conclusion, fais 4 pages. Donc t'as pratiquement donné 5 euros par page. Tu te rends compte de la valeur de la page quand même? Parce que j'ai tout mis dans ces pages, hein. Un sub par page. Ouais. Ah oui, tu te réabonnes à ma chaîne aussi. C'est important. D'ailleurs, vous savez qu'avec Twitch Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne. Chaque mois. Profitez-en, c'est gratuit. Et si vous n'avez pas ce Twitch Prime, vous pouvez vous abonner avec votre carte bleue. Ça me permettra de bouffer aussi. Et ça, c'est chouette. Demande environ 300 pages, j'en ai fait 80 et ma VAE est passée. Juste un bon dossier. Ça doit être pareil dans tous les domaines. Mais oui. Jean qui avoue qu'il vend un cale-porte à 19 euros. C'est pas un cale-porte, c'est un cale-écran. Je vous ai dit, vous pouvez le caler. Vous pouvez caler votre écran grâce à ce livre pour le rehausser un peu pour pouvoir mieux jouer à Valorant. C'est dans le livre. L'argent public, des fiscs associatifs, tu peux rappeler pourquoi tu ne veux pas y faire appel pour Baxit? Non, c'est parce que je ne peux pas. Le principe de déduction fiscale des dons faits à des associations ne concerne que les dons que vous avez faits à des associations reconnues d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique, ou RUP dans le jargon, c'est un long processus auquel peuvent avoir droit des associations, des organisations à but non lucratif. Baxit n'est pas une association. On n'est pas reconnu d'utilité publique, on ne peut pas l'être. C'est tout? Et pourtant, Baxit est bien d'utilité publique. Ah, mais ça, je suis d'accord, mais on n'a pas la reconnaissance pour. Est-ce que tu as le droit à la TVA réduite pour la presse quand même? Bah non, parce que c'est pas de la presse. Que se passe-t-il pour les dons à des journaux qui sont, me semble-t-il, déductibles? Parce que les organes de presse, eux, peuvent avoir des statuts de type reconnaissance d'utilité publique qui leur permet de percevoir des dons défiscalisables. C'est quoi comme structure administrative Baxit d'ailleurs? Baxit, c'est un contrat de coproduction qui est signé entre ma personne et l'entreprise Equal Production, qui n'a que deux personnes, hein, c'est Quentin et François. Donc on est trois coproducteurs. Baxit est une coproduction. Et c'est dans le cadre d'un contrat qu'on exécute, qu'on réalise Baxit. Ensemble. C'est ta personne ou ta société? Ah, c'est peut-être ma société, ouais, qui signe. Enfin bon, comme c'est une société unipersonnelle, c'est moi qui signe en bas de la page, quoi. C'est une émission. Ouais, c'est une émission. Vous prenez des stagiaires? Non, malheureusement, on ne prend pas de stagiaires puisqu'on n'a pas de locaux. C'est comme un couple monoparental. C'est ça. Il n'y a pas de structure dédiée, c'est la boîte de prod qui paye les cachets. Absolument, il n'y a pas de. Enfin, si, la structure dédiée, c'est Equal Prod, le véhicule administratif chargé par le contrat du suivi comptable, de la perception de l'argent et de la rétribution des bénéficiaires, c'est Equal Prod. Moi, je suis propriétaire de la marque et du format. Et puis par ailleurs, je suis le coproducteur, je suis le présentateur, je suis le diffuseur aussi. C'est pas Gozu à la prod? Non, Gozu s'occupe de la prod exé. Donc on a un contrat avec Gozulting que l'on charge de la réalisation matérielle. Donc la mise à disposition des locaux, enfin on le paye, hein, et le matériel audiovisuel et le personnel technique. Cumule des emplois, cumule des emplois. Bah ouais, je suis streamer, donc là, techniquement, je suis en train d'animer une émission, mais je suis aussi en train de la diffuser. C'est moi la chaîne. Donc je l'anime et je la diffuse. Et en plus, je suis producteur. Ça reprend quand, Backseat? Ça reprend le 3 octobre. Et là, ce soir, je vais devoir vous laisser, les amis, parce que je vais aller à l'apéro de rentrée de Backseat. On a réuni toutes les équipes pour boire un petit coup. Pour se donner du courage pour cette belle saison qui nous attend. Avec les chroniqueurs, avec tous ceux qui veulent, avec tous les gens de la prod, avec François, avec tout le monde et tout. Donc ça part en apéro. Il est 18h. Moi je pense que c'est le bon moment de vous faire des gros bisous, de vous remercier d'avoir été là. Et c'était chouette. On se retrouve demain. Pardon, on se retrouve demain à 15h. Après le stream demain, il y a l'événement de lancement de mon livre. Pour celles et ceux qui habitent à Paris, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous à 19h30 au 51 rue Bagnolet, rue de Bagnolet. C'est une librairie qui s'appelle Le Merle Moqueur. Et c'est là qu'on fera l'événement de lancement du livre. Ce ne sera pas streamé, hein, ce sera uniquement pour les personnes sur place. Donc venez, c'est une exclue. Et jeudi, je vais à Strasbourg. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao.